Europe 1. Écoutez le monde changer.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Hôpitaux saturés, soignants exténués, les chiffres dont on nous redit chaque jour qu'ils ne sont pas bons. On a l'impression d'être revenu un an en arrière, que l'épidémie ne se terminera jamais. Alors l'épidémiologiste Dominique Costagliola est en direct avec nous ce matin. Elle va nous dire dans quelle faille spatio-temporelle nous sommes tombés. Je recevrai ensuite Franklin Dehousse. Lui, c'est l'imbroglio vaccinal dans lequel s'est fourré la Commission européenne qu'il va démêler pour nous. Et pour terminer cette émission, dans la bonne humeur, il y aura Philippe Geluck. Cela fait 3 ans qu'il nous annonçait sa grande exposition sur les Champs-Élysées. Eh bien, ça y est, 20 statues du chat sont installées sur la plus célèbre avenue du monde. Voilà au moins une bonne raison de se réjouir. Bonjour Dominique Costagliola.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste, spécialiste en biostatistique, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie de santé publique, directrice de recherche à l'INSERM. Alors un an après le confinement strict du printemps dernier, on a fait des progrès, on soigne mieux les malades, il y a des vaccins, mais on a l'impression que la situation est la même, exactement la même qu'il y a un an. Comment l'expliquez-vous ?
Donc... Finalement, c'est une nouvelle vague avec ce nouveau variant qui est apparu chez nous certainement à la fin de l'année dernière et puis qui lentement mais sûrement est devenu le variant le plus fréquent à l'heure actuelle. Ce variant, il est à la fois plus transmissible, ça veut dire que les mesures pour contenir l'épidémie doivent être plus importantes pour arriver au même résultat qu'auparavant. Il est aussi plus dangereux, c'est-à-dire il fait plus souvent des formes graves, il augmente le risque de décès d'environ 60%. Et donc, au fond, d'une certaine façon, c'est pour ça qu'on est reparti finalement comme avant. Avec le problème, c'est qu'on a l'impression qu'au niveau des décisions prises pour contrôler l'épidémie, les leçons n'ont pas été apprises. Contrôler l'épidémie, ça n'est pas attendre qu'il y ait un nombre maximum de personnes hospitalisées en réanimation. Contrôler l'épidémie, c'est arrêter la circulation du virus.
Mais on a l'impression qu'on l'a jamais, ça n'est jamais arrivé en France, pratiquement.
Ben, on a contrôlé la circulation du virus de façon assez forte lors du confinement strict de l'année dernière. On est sorti du confinement avec une circulation du virus qui persistait mais qui était modeste et qui nous a permis d'avoir un été calme avec une reprise de l'épidémie lente mais qui a commencé dès mi-juillet.
On savait depuis le début janvier, d'ailleurs vous faisiez partie des scientifiques qui l'avaient dit, on savait dans quelle situation on allait se retrouver à la mi-mars à cause de ce fameux variant britannique. Vous continuez de penser qu'il fallait un reconfinement total, Dominique Costagliola ?
En fait, ce que ça aurait permis de prendre une décision de confinement sur le mois de février, ça aurait permis de limiter la diffusion de ce virus. Vous voyez, ça aurait permis... que le moment où il serait devenu dominant soit reculé. Et ça, ça aurait permis de gagner du temps pour voir arriver les doses de vaccins. On sait qu'elles vont arriver, disons, en masse à partir de mi-avril. Et, tandis que maintenant, on est dans une situation horrible à l'hôpital avec la déprogrammation maximum. Donc ça veut dire que les autres personnes qui ont d'autres problèmes ne vont plus être prises en charge de façon optimale. Et même pour les gens qui ont la Covid, il n'est pas sûr qu'on arrive à tous les prendre en charge. Et on sait qu'il faut attendre encore, au moins la fin du mois d'avril, le début du mois de mai, pour voir un effet supplémentaire des lots de vaccins qui vont arriver. Donc on a un timing qui ne va pas du tout. Et ce qu'aurait permis un confinement de 4 semaines au mois de février, ça aurait été de retarder le moment de cette nouvelle vague et que ça arrive à un moment où il y avait plus de gens vaccinés.
Mais on voit bien que le gouvernement, lui, veut retarder plutôt. Ce qu'il veut retarder, c'est le confinement. On a parlé là de reconfiner la population comme il y a un an, mais à la place, on a reculé le couvre-feu d'une heure et on a fermé les boutiques de vêtements.
Oui, en fait, le gouvernement, il a fait au fond du confinement l'épouvantail absolu. C'est lui-même dans sa communication qui a fait ça. Et après, il dit, je ne peux pas le faire parce que c'est désagréable pour les gens. Mais une situation dans laquelle... d'une certaine façon, on attend tous les jeudis pour savoir à quelle sauce on va être mangé, sans avoir aucune perspective, avec des pans entiers de l'économie qui sont à l'arrêt. Personnellement, je ne suis pas sûre que ça gère au mieux la situation, avec l'objectif de minimiser les dommages, qu'ils soient sanitaires, sociaux ou économiques. Je pense qu'en prenant des mesures plus fortes mais plus courtes, finalement, on aurait eu un meilleur résultat faire revenir l'incidence à des taux plus bas et peut-être pouvoir engager une politique qui aille vers le zéro Covid, dont on voit, et c'est aussi ce que les économistes disent, pas juste les personnes qui s'occupent de santé publique, qu'au fond, c'est le meilleur équilibre que l'on peut avoir pour lutter contre cette épidémie.
Et puis c'est vrai qu'on aurait su, en gros, combien de temps cela risquait de durer. On a l'impression qu'on fait du surplace, on ne sait pas, au fond.
Et toutes les semaines, on attend cette foutue conférence de presse pour savoir à quelle sauce on va être mangé. Et la situation se détériore, elle se détériore et elle se détériore.
Vous y croyez, vous, que, comme le président de la République l'a promis, que tous les Français de plus de 18 ans qu'ils souhaitent pourront être vaccinés d'ici la fin de l'été ?
Il y a deux aspects. Enfin, disons, normalement, on devrait avoir les doses nécessaires si on n'a pas de nouvelles mauvaises alertes sur l'arrivée des doses. Après, avec ce nouveau variant, qui est plus transmissible, le taux de couverture qu'il va falloir atteindre dépasse celui de la population cible. Et on sait que dans la population cible, c'est-à-dire tous les adultes de plus de 18 ans, tout le monde ne voudra pas se faire vacciner. Alors bien sûr, on peut prendre en compte les gens qui l'ont eu, peut-être imaginer qu'ils ont aussi une protection. On ne sait pas bien si elle est aussi bonne ou pas tout à fait aussi bonne que celle conférée par les vaccins. Je ne suis pas sûre qu'on arrive à l'immunité de troupeau juste avec la population cible actuelle.
L'immunité de troupeau, comme vous dites, c'est quoi ? Avec ce nouveau variant, ça change. Est-ce que ce sera 70%, 80%, 90%?
Plutôt 80%, 78-80%, suivant les calculs qui ont commencé à être faits.
Il faut que 80% de la population soit immunisée pour qu'on espère en finir avec cette épidémie.
Alors, pas tout à fait en finir. On aura sans doute des petites épidémies ici ou là, mais au moins que ça ne pèse pas comme ça pèse actuellement et qu'on puisse imaginer à ce moment-là pouvoir relâcher les mesures de distanciation qui sont mises en place.
Donc en gros, d'après ce que vous nous dites, on va porter le masque jusqu'à Noël prochain là.
Ça paraît peu probable qu'on fasse autrement. Il y a un article qui est paru il y a environ 15 jours dans Lancet Infectious Diseases qui décrit la situation pour l'Angleterre. Alors en Angleterre, ils ont moins de jeunes, mais quand même. Ils ont plus vacciné de gens, mais qui ne prévoient pas, un retour à la normale avant 2023, pardon, excusez-moi.
Ben oui, vous avez la même impression que nous, de faire du surplace ou de repartir en arrière.
Oui, c'est ça, c'est un lapsus révélateur, j'en ai pas.
On fait une pause, on se retrouve juste après Dominique Costagliola.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes toujours avec Dominique Costagliola. Les patients en réanimation sont de plus en plus nombreux, mais aussi plus jeunes et sans comorbidité. Alors, comment l'expliquez-vous ?
En fait, ce nouveau variant, il est à la fois plus transmissible et plus sévère. Il y a déjà des données, en particulier du Royaume-Uni, qui le montrent. On a une étude en cours pour étudier cela en France. Globalement, on a changé finalement. Donc, parmi les gens hospitalisés, la part de ceux qui sont en réanimation par rapport à avant, parce que finalement, on a moins de gens âgés qui sont hospitalisés, parce qu'ils ont été vaccinés les premiers. Et on voit une chute très nette des hospitalisations chez les plus de 80 ans et les plus de 90 ans. Et donc, du coup, en proportion, plus de gens qui sont en réanimation qu'avant.
Parce qu'au fond, les gens de plus de 80 ans, ils n'allaient pas en réanimation.
Voilà, très peu, quand vous regardez les courbes, très peu allaient en réanimation.
Donc là, en fait, les plus jeunes, les jeunes font des formes plus sévères et ils restent plus longtemps et donc il y a plus de monde en réanimation.
Oui, c'est ça. La durée de séjour, finalement, est assez longue avec cette maladie. Et donc, du coup, c'est aussi ça qui, entre guillemets, engorge le système puisqu'il n'y a pas de... il y a de moins en moins de lits. Et maintenant, on en est à un stade, en tout cas en Île-de-France, où on a déployé absolument partout où on pouvait des soins intensifs, donc des lits qui ne sont d'habitude pas des lits de réanimation, mais qu'on essaie d'équiper. Et évidemment, il y a une limite à ça, qui est les personnels qu'il faut mettre autour.
Oui, les lits, à la limite, on peut les improviser. Ce qu'on ne peut pas improviser, c'est le personnel qui marche avec. Oui. Mais alors justement, vu que ça s'accélère partout, qu'est-ce qui risque de se passer ?
Je pense qu'on est assez proche de la situation de devoir trier les malades sur des critères différents de ceux qu'on utilise habituellement. On a un taux d'occupation en réanimation qui est en France entière près de 94%. on est à plus de 126% en région Île-de-France. Donc, on n'a pas la possibilité qu'on avait l'année dernière, soit que des personnels se déplacent pour venir des régions moins touchées, s'occuper des patients en Île-de-France, soit de transférer des patients dans d'autres régions, parce que la tension, elle est forte absolument partout.
Et les enfants, ils sont toujours vecteurs du virus. On voit bien que l'école, c'est un enjeu. Le gouvernement ne veut pas fermer l'école. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Je pense que c'était légitime de vouloir ne pas fermer l'école. Mais alors, dans cette logique, on aurait dû immédiatement dire qu'il fallait privilégier la vaccination des personnels qui travaillent à l'école. Comme à l'époque, en fin d'année dernière, on disait encore qu'il ne se passait rien à l'école, eh bien, du coup, on n'a pas décidé qu'on allait prioriser les enseignants. Et au fond, ce que révèle le nouveau variant qui est plus transmissible, c'est que ça explose à l'école. Alors, avant, ça existait aussi, mais c'était moins visible et on pouvait le nier. Mais maintenant, c'est impossible de le nier. Quand on voit la situation, comment on fait pour maintenir les écoles, dans des écoles, par exemple, où il n'y a plus d'enseignants ? Comment on fait pour maintenir la cantine alors qu'un quart des personnels sont positifs au cas contact ? Vous voyez, c'est bien gentil de dire qu'on va vouloir maintenir les écoles, mais on ne peut pas faire ça sans personnel. Et le personnel lui-même est atteint. Donc en fait, voilà, c'est illogique de dire « je veux maintenir les écoles » et de ne pas avoir priorisé la vaccination des personnels qui y travaillent. C'est incompréhensible.
Dominique Stagliola, il y a des pays qui sont sortis d'affaires. Hein. Il y en a en Asie, il y en a en Océanie. En Europe, en revanche, on voit bien que ça continue. On se débat sans fin contre cette épidémie. Qu'est-ce qui n'a pas marché, à votre avis ?
Je pense que c'est le fait de vouloir prendre des décisions par anticipation, en craignant les réactions de la population, qui ont eu l'impression qu'on prenait des décisions alors qu'il ne se passait rien. Et le fait de pas avoir suivi le contrôle des épidémies d'une façon générale, c'est quelque chose qui était plus maîtrisé d'une certaine façon dans certains pays à ressources limitées. Parce qu'au fond, c'est souvent les seuls moyens qu'ils ont de prendre des mesures de contrôle. Et c'est quelque chose qu'on avait abandonné chez nous, puisqu'on était vous voyez, moi, quand j'ai commencé ma carrière à la fin des années 70, les gens disaient, les maladies infectieuses, c'est fini. Le problème, c'est les maladies chroniques. Donc, on a perdu totalement cette culture. Et je pense que ça a manqué. Et je pense que, finalement, il y a quand même des pays, à grandes ressources comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui ont décidé de prendre ça à bras-le-corps. Alors, c'était plus facile dans la mesure où c'était des îles, mais c'était quand même parce qu'il y avait une volonté politique d'agir immédiatement sans laisser les choses empirer.
Et à propos du sida, c'est le SIDAction, mais le sida, là, au moins, il y a des progrès. On peut en dire un mot ?
Oui, il y a eu énormément de progrès. Malheureusement, cette année, on a énormément de progrès. C'est-à-dire, on a maintenant des traitements efficaces et qui sont tolérables. Et une nouvelle formidable, c'est que si on est traité, on a une charge virale contrôlée, on ne peut plus transmettre le virus. Donc, on arrête la chaîne de contamination. Ça, c'est formidable. Cette année, malheureusement, en France, il y a eu beaucoup moins de dépistage. Donc, les gens qui seront diagnostiqués plus tardivement, c'est un enjeu pour leur santé parce qu'une fois qu'ils seront traités, ça va être beaucoup plus long pour qu'ils récupèrent l'immunité. Et aussi parce qu'ils sont susceptibles de continuer à transmettre alors que s'ils étaient traités, ce ne serait pas le cas. Dans les pays à ressources limitées, il y a eu des problèmes pour maintenir les filières de soins. Donc, il va y avoir beaucoup de travail à faire pour récupérer cela. Et c'est la raison pour laquelle SIDAction, qui est vraiment si originale, avec un financement des associations qui accompagnent les personnes concernées et de la recherche à part égale, eh bien, c'est un outil formidable pour les aider dans la lutte contre le VIH. C'est le week-end du SIDAction, il faut donner au SIDAction.
Oui, évidemment. Et vous travaillez sur le SIDA vous-même depuis pratiquement les origines, hein ?
Oui, j'ai commencé en 1986.
Merci Dominique Costagliola d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. On se retrouve juste après une pause avec Franklin Dehousse. On va parler de l'imbroglio vaccinal.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Franklin Dehousse, bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Liège. Vous avez été représentant de la Belgique auprès de l'Union européenne. Vous avez été juge à la Cour de justice de l'Union européenne. Vous êtes un Européen convaincu. Et pourtant, à propos de l'imbroglio actuel de la vaccination en Europe, vous dites dans une tribune publiée sur Le Vif en Belgique, une tribune que vous avez intitulée « Le naufrage de la Commission européenne dans la mer du coronavirus », vous dites que l'on ne trouve pas dans l'histoire une opération aussi fondamentale ayant été gérée de manière aussi stupide. C'est cruel.
Oui, mais je ne crois pas que c'est parce qu'on apprécie l'Union européenne qu'on doit être aveugle quant aux faiblesses de gestion. C'est deux plans tout à fait différents. Ça ne me paraît pas excessivement cruel dans le sens que nous voyons très bien, et les citoyens voient très bien aussi, que si vous comparez ce qui se passe avec des pays alliés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, il y a quelque chose qui, fondamentalement, pour le moment, j'espère que ça sera corrigé par la suite, ne fonctionne pas au niveau de l'Union européenne, pour une série de raisons que j'ai essayé de décrire.
Alors, vous dites que vous avez plutôt bien commencé. Alors, au fond, quelle est la première erreur commise par la Commission ?
La première erreur, me semble-t-il, c'est de ne pas avoir y pensé. Nous vivons dans une crise qui est une crise étonnante, car jusqu'ici, la plupart des idées nouvelles pour gérer la pandémie viennent des États membres, pas de la Commission. Le fonds, par exemple, de redressement de 750 milliards est une initiative franco-allemande. Les vaccins, c'était une initiative de quatre grands États membres. Et maintenant, le certificat de vaccination, c'est encore une initiative d'États méditerranéens. Donc, vous voyez, la Commission a cessé d'être la locomotive. Elle est plutôt dans le wagon de queue.
Alors,
c'est un premier problème parce que on est parti plus tard que les autres.
Enfin, on avait décidé donc d'acheter des vaccins pour tout le monde. Ça, vous trouvez que c'est plutôt une bonne idée, mais on a privilégié le prix et la responsabilité des labos. On n'a pas tenu compte de l'urgence. Quand je dis « on », c'est la Commission européenne, hein, bien sûr.
C'est la Commission européenne, mais aidée dans certaines fautes par les États membres. Mais fondamentalement, une fois que la Commission a été investie, elle n'a pas beaucoup réfléchi, me semble-t-il, à la manœuvre structurelle qui était quand même très différente de ce qu'elle fait d'habitude. C'est un deuxième point. Il suffit de regarder ce qui s'est passé l'année dernière aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui sont pourtant pas gérés par des gouvernements qui éclatent par leurs super compétences, pour se rendre compte qu'il y a des choses qui ont été faites là-bas et qui n'ont pas été faites chez nous. Je vous donne un exemple. Dès l'été 2020, on parle donc de l'année dernière, aux États-Unis, on a distribué 2 milliards de subsides à des entreprises qui faisaient des composants et des équipements pour les vaccins. Vous voyez maintenant que M. Breton va se promener, le commissaire européen investi de la chose, dans les usines, mais il le fait, nous sommes au printemps 2021. Donc on a un retard dans ce type d'approche. Il y a aussi eu un problème budgétaire. J'ai fait par exemple la somme récente de tout ce que les États-Unis ont dépensé dans la production de vaccins. On arrive à la somme totale de 20 milliards de dollars jusqu'ici. Nous sommes entre 2 et 3 milliards d'euros. Cherchez la différence. Ils ont une population de 300 millions et nous sommes à 400 millions.
En effet. Alors, il y avait certains pays comme la France qui redoutaient les anti-vaccins, d'où la responsabilité des labos qui a été bien vérifiée par la Commission européenne en cas de problème. Et puis, tous les États membres voulaient limiter la dépense, vous l'avez dit. Mais quand Pfizer et AstraZeneca ont annoncé des retards de livraison, qu'est-ce que la Commission européenne aurait dû faire et qu'a-t-elle fait ?
La seule chose... Écoutez, nous sommes dans un processus où on demande aux entreprises de multiplier la production par 100 ou par 1000. Toute personne ayant vécu en entreprise sait très bien que, un, ça va prendre du temps, et que, deux, il va y avoir des accidents. Vous ne pouvez pas pousser à ce point sur l'accélérateur sans avoir des problèmes ici et là. Donc, on les a eus. Bien évidemment, les entreprises dans les contrats, c'était garanti. C'est pour ça qu'aucune d'entre elles n'a pris des engagements qu'en vérité, elles ne pouvaient pas prendre. Ça allait trop vite avec trop d'incertitudes. Et donc, la seule chose à faire, ça n'est pas de gesticuler en disant qu'on va sanctionner les entreprises, qu'on va les traîner en justice, comme le disait Charles Michel, le président du Conseil européen, qu'on va bloquer les exportations, parce que ça risque de provoquer plus de désordre qu'autre chose. C'est d'améliorer, c'est ce que M. Lureton a bien compris d'ailleurs, améliorer le processus de production, voir où sont les blocages dans ce processus. C'est la seule chose à faire.
Mais elle avait tort de réclamer les vaccins promis au Royaume-Uni, par exemple ?
Écoutez, la Commission maintient sur les contrats qu'elle a signés une opacité totale qui me paraît contre-productive sur le plan de la gestion et contre la loi sur le plan du droit. Il faudrait voir tous les contrats. Maintenant, de ce qu'on a vu des contrats, on voit très bien que les entreprises ont assumé une obligation de moyens, c'est-à-dire faire des efforts et pas des résultats. Donc elles ont elles-mêmes dit dans les contrats qu'il y aurait des problèmes.
Ce qui était donc, à peu près, on pouvait s'y attendre vu que c'était des nouveaux vaccins.
Ah, c'est pas seulement les nouveaux vaccins, c'est demander qu'on multiplie la production par des volumes insensés. N'oublions pas qu'à terme, toute cette histoire ne fait que commencer, nous aurons besoin de entre 8 milliards et 16 milliards de vaccins par an. C'est titanesque. Hein,
et les contrôles sur les exportations à partir de l'Union européenne, vous ne trouvez pas ça normal ?
Je crois que ce n'est pas la bonne réponse. Il y a une légitimité sur le plan général, mais cette histoire n'a pas été du tout étudiée. Et ce que je crains bien, c'est d'abord ça ne va pas produire beaucoup d'effets. Ensuite, ça crée un précédent qui va se retourner contre l'Europe. Hein. Les gens qui regardent cette affaire avec un tendre sourire, ce sont les Chinois. Parce que au niveau de l'OMC, il y a une règle qui limite la capacité de faire des contrôles aux exportations. L'Europe aujourd'hui est en train de créer un précédent auquel elle n'a pas bien réfléchi. Et demain, ça va lui revenir dans la figure sur d'autres choses.
On fait une pause, Franklin Dehousse. On se retrouve juste après. Vous allez continuer de nous démêler cet écheveau auquel on ne comprend pas toujours grand-chose.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Nous sommes toujours avec Franklin Dehousse, professeur à l'Université de Liège, ancien représentant de la Belgique dans les négociations européennes, ancien juge à la Cour de justice de l'Union européenne et qui parle de naufrage de la Commission européenne dans la mer du coronavirus. C'est le titre de sa tribune parue sur Le Vif en Belgique. Qu'est-ce qui a provoqué le naufrage ? J'ai l'impression, après avoir lu votre tribune, Franklin Dehousse, que c'est quand Charles Michel, le président du Conseil européen, a proposé à Ursula von der Leyen d'attaquer AstraZeneca en justice.
Oh, ça, je crois que ça y a contribué, mais c'est quelque chose de plus large. Fondamentalement, il n'y a pas eu véritablement de réflexion sur la nouvelle mission de l'Union européenne. Et c'est ce qui nous amène à cette situation où on n'a pas vraiment le budget, on n'a pas vraiment le contrat, on n'a pas vraiment de réflexion sur le processus de production. Et je répète, ça aurait été très facile de faire mieux, simplement en regardant ce qui se passait chez nos voisins à l'été dernier. Parce qu'ils avaient déjà lancé à cette époque des choses, et nous savions très bien, par exemple, qu'il y aurait des problèmes dans le commerce. Donald Trump a voulu mettre la main sur l'entreprise qui fait son vaccin avec Pfizer, c'est une entreprise allemande. Boris Johnson a refusé de faire un accord avec une entreprise américaine et Oxford. Donc c'était très clair que les États allaient vouloir conserver un contrôle sur le processus de production. Qu'a-t-on fait à cette époque en Europe pour réfléchir à la portée de cela ? Ben, rien.
Mais en même temps, quand attaquer AstraZeneca, sur le plan médical, c'est quand même une erreur, puisque AstraZeneca a une place centrale dans notre campagne de vaccination en Europe.
Pour le moment, ça, c'est contre-productif. D'abord parce que le contrat a été mal négocié par la Commission. Et donc, à mon avis, il offre peu de perspectives de ce règlement judiciaire. Un, deux, ça prendra de toute manière du temps. Et trois, en tout état de cause, nous avons besoin d'un maximum de producteurs sur le pont. Et ce n'est pas le moment d'entamer une action qui risque juste de polluer la négociation des contrats suivants. Je le répète, il faut corriger les erreurs, avoir la perspective à long terme. Et la perspective à long terme, c'est quelque chose comme 12 milliards de vaccins par an.
Donc l'Union européenne a quand même fini par renforcer les lignes de production.
l'Union européenne a commencé à renforcer ses... Mais vous ne pouvez pas faire de miracle. Si les Américains ont dépensé 2 milliards il y a 9 mois sur le sujet, ben, vous pouvez danser sur votre tête, inventer des régimes d'exportation, imaginer des procédures en justice. Vous n'aurez pas les usines qui vont produire davantage tout de suite.
Vous avez dit 2 milliards, vous vouliez dire 20 milliards.
Non, ils ont dépensé 2 milliards simplement sur les composants des vaccins.
Oui, d'accord, au tout début.
Et ils ont dépensé alors 20 milliards sur tout le programme.
La Commission a eu tort, à votre avis, de ne pas rendre public les contrats avec les labos, alors que les négociations étaient terminées,
hein. Je crois que oui, mais la vraie raison, je le crains, c'est que les rendre... D'abord, il faut le rendre public parce que le Parlement qui doit exercer un contrôle sur la Commission, comment voulez-vous qu'il l'exerce si les parlementaires ne savent pas ce qu'on a décidé? Et ensuite, les citoyens ont un droit qui est inscrit dans le traité, la Charte des droits fondamentaux, à voir les choses. Je comprends qu'on bloque pendant la négociation, mais après, il faut retomber sur les principes. Je crains que la Commission ne l'ait pas fait, parce que sinon, on va voir que les arguments qui ont été soulevés à la fois par... Charles Michel et Ursula von der Leyen n'ont pas véritablement de fondement. C'est pas une vraie solution. Il faut avoir le courage de reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'on va les corriger avec le temps et que ceci ne fait pas partie des solutions.
Vous dites d'ailleurs dans votre tribune qu'Ursula von der Leyen ne s'est pas conduite de manière très démocratique. Vous le maintenez aujourd'hui ?
Non, pas du tout. Je ne sais pas si elle a lu l'article ou pas, mais en tout cas, au début, j'étais très choqué parce que quand elle explique qu'elle va aller présenter des explications en réunion fermée de certains groupes politiques au Parlement et pas d'autres, ce n'est pas la manière dont un Parlement doit fonctionner. Il fonctionne aussi pour le public et tous les groupes politiques ont droit au même respect. Donc, ça m'apparaissait choquant. Je note que depuis, elle a d'ailleurs corrigé cette approche et elle a bien raison.
Et de même, vous lui reprochiez de s'expliquer devant le public allemand, mais pas devant le reste de la population européenne.
Eh bien, c'est l'avantage d'être passé progressivement devant un public européen, c'est que ça aussi, ça a été corrigé. Donc il faut reconnaître, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle régulièrement, je crois qu'il faut publier des choses en indiquant aux dirigeants où ça ne va pas, et certains d'entre eux, grâce au Dieu, les lisent et corrigent ce qui ne va pas. C'est comme ça que nous arriverons progressivement à une meilleure gestion.
Ceux qui, comme la Hongrie, ont acheté du vaccin russe dans leur coin, ont-ils eu tort? Et Angela Merkel, qui menace de faire pareil, aurait-elle tort de le faire?
Je ne suis pas sûr qu'on doive percevoir ça comme une menace. Qui menace-t-elle? Non, nous sommes dans des situations difficiles où les dirigeants voient bien que... Pour des raisons d'ailleurs très bien expliquées par votre invitée précédente, on a mal préparé les pandémies de ce type, donc on a du retard, donc il y a des dégâts médicaux, des dégâts économiques et sociaux, et donc on veut toutes les solutions, ça ne m'apparaît pas en soi un crime. Le principal problème, c'est de nouveau de ne pas annoncer des choses qui seront difficiles à mettre en œuvre. Je veux dire par là, le même problème de réflexion sur l'utilisation du vaccin russe se reproduira. Il faut bien voir que si jamais il était autorisé par l'agence européenne, il faudrait encore avoir les usines pour le produire. Et il faudra choisir de fixer ces usines soit en Russie, soit dans l'Union européenne, parce qu'il y aura un problème de vérification des normes de production. Bien sûr, M. Taddeï, vous et moi, nous pouvons partir au centre de la Russie, à Irkoutsk, aller vérifier les processus de production des vaccins russes en cyrillique. Je ne crois pas que ça nous conviendra, et ça ne conviendra d'ailleurs pas non plus à M. Poutine. Donc il va falloir trouver des usines où on pourra vérifier les engagements pris. En d'autres termes, si vous prenez le vaccin russe, il faut refaire le même raisonnement. Ce qui compte, c'est le processus de production et tous les blocages successifs qu'il faut lever méthodiquement et prudemment les uns après les autres.
Merci Franklin Dehousse. On se retrouve juste après une pause avec Philippe Geluck.
Europe 1, 9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Philippe Gueluc.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Ça y est, les 20 sculptures monumentales du chat sont installées sur les Champs-Élysées depuis mercredi et cela jusqu'au 9 juin. Elles sont en bronze de 2 mètres de haut, elles pèsent 2,5 tonnes chacune. Voilà donc votre héros statufié comme un chef d'État ou un bienfaiteur de l'humanité.
Ah oui, bonne comparaison, j'hésite entre les deux. En tout cas, il fait face au général de Gaulle du côté du Grand Palais et vers Clémenceau du côté du Petit Palais.
Et effectivement, et en face à Clémenceau et au général de Gaulle, il y a donc le chat en tutu, le chat en golfeur, le chat en fakir, le chat en haltérophile. Et vous êtes fier de vous.
Oui, ce que n'aurait jamais accepté de Gaulle, c'est de poser en tutu sur les Champs-Élysées, et le chat l'a fait. C'est un peu, je vous avoue que c'est un peu impressionnant pour moi.
Vos chats vont voyager ensuite dans une dizaine de villes françaises et européennes. Il y a Bordeaux, il y a Caen qui sont au programme.
Oui, Caen, c'est en octobre. Oui, merci Raymond Devos. Et Bordeaux, c'est tout l'été. Et ensuite, il y aura des grandes villes. Je dois renouer certains contacts avec des nouveaux élus. Il y a eu une pandémie qui est passée par là et qui a un petit peu bouleversé le calendrier. Mais il y aura Milan, il y aura Genève, Luxembourg. Et hier, quelqu'un me parlait de New York. Un visiteur qui dit « mais je dois les emmener à New York ». Moi, je dis « écoute, vois, si t'as un bateau…
Bah » oui, c'est pas vous qui allez refuser, parce que ça fait quand même 3 ans que vous m'en parlez, et par mon intermédiaire aux auditeurs d'Europe 1, puisque à chaque fois, c'est sur cette antenne, que ça devait avoir lieu en avril dernier, hein, et puis il y a eu le confinement. Là, ça a failli passer pas loin, on a été reconfinés, mais enfin là, on est reconfinés dehors, donc tout va bien.
Voilà, et sur les recommandations du Premier ministre Castex, qui demande aux gens de sortir. Et donc cette exposition, inaugurée vendredi matin mais en place depuis mercredi, a déjà attiré plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Ce qui en fait le plus gros succès du moment. Mais c'est facile puisqu'il n'y a aucune exposition qui est ouverte nulle part.
Et que vous avez choisi la plus célèbre avenue du monde. Hein. Pourquoi d'ailleurs n'avez-vous pas choisi le château de Versailles comme Jeff Koons ou Takashi Murakami ?
Parce que monsieur, nous l'avions évoqué, mais on ne choisit pas le château de Versailles. On sollicite éventuellement une approbation, mais il m'a été répondu qu'on ne voyait pas dans mon travail de rapport avec le roi Soleil. Et que donc, il n'y avait pas de raison. Tandis que Jeff Koons avait sans doute réussi à placer un petit rayon de truc et l'autre autre chose. Donc voilà, nous en avions parlé avec Catherine Pégard qui trouvait le projet formidable. Mais je me suis dit que la plus belle avenue du monde aurait plus de gueule encore. Et j'ai bien fait de choisir ça parce que le château de Versailles est fermé pour l'instant. Voilà, les lapins et les tulipes sont les seuls visiteurs admis.
Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous les avez sculptés vous-même ? Est-ce que vous vous êtes fait aider ? Est-ce que vous pétrissez la terre glaise comme Rodin ? L'original faisant quelle taille d'ailleurs hein,
parce voilà. Que... Alors oui, comme Rodin, mais moins bien que lui. Il était plus habile que moi, je le reconnais humblement. Alors oui, moi je travaille le modèle original, si vous voulez. Je le travaille d'abord en petit fil de fer que je tords dans tous les sens pour créer une maquette à très petit format et voir si elle tient debout, si elle a de l'équilibre, si les forces sont celles qu'il faut. Ensuite, je fais faire un squelette d'acier. Là-dessus, je pose ma terre glaise et puis je modèle. Et c'est une partie très sensuelle, très jouissive, bien plus jouissive que le dessin. Parce qu'on touche son personnage des doigts et on le fait naître dans ses mains. Et lorsque j'arrive au stade que je considère comme abouti, là je fais appel à François Debouc, que j'appelle mon frère en sculpture, et qui fignole le modèle. Il a une patience d'ange des doigts d'or, et nous travaillons depuis très longtemps ensemble. Et puis il y a ensuite 25 autres personnes qui vont intervenir pour faire les moules, les contre-moules, les cires, la cire perdue, le coffrage, le coulage du bronze, et puis la soudure, le ciselage, et puis la patine enfin. Et 65 personnes ont travaillé sur ce projet, y compris pour le transport, l'installation, les socles, etc.
Qu'est-ce qu'elles vont devenir toutes ces statues ?
Alors, elles vont accomplir la tournée.
Après leur tournée, après New York.
La tournée va durer quelques années. Elle va s'achever à Bruxelles au moment de l'inauguration du musée du chat et du dessin d'humour, dans le Parc Royal. Et ensuite, elles vont se retrouver dans des jardins. Dans les jardins de collectionneurs, d'amateurs d'art fortunés qui en ont fait l'acquisition depuis
déjà,
maintenant.
Tout est vendu déjà.
16 sur 20 sont vendus. Pourquoi ? Parce que je devais financer cette exposition. Et que je me suis lancé dans le projet sans avoir aucune certitude. Je n'avais pas vendu le premier doigt de pied du premier chat. Et je me suis dit, si j'arrive à les vendre à un prix un peu élevé, 300 000 euros, pour, voilà, c'est public, je me suis engagé immédiatement à ne percevoir aucun centime de bénéfice personnel sur ces ventes pour que l'entièreté du bénéfice récolté aille au projet culturel. On va financer la tournée et au-delà de ça, préparer une cagnotte pour le musée du chat.
Puisqu'il vous en reste quatre, si j'ai bien compté, pour y en offrir une à la ville de Paris, comme Jeff Koons, avec son bouquet de tulipes qui se trouve aujourd'hui dans le jardin du Petit Palais, à deux pas des Champs-Élysées. Vous n'avez qu'à faire pareil.
Oui, je pourrais faire pareil. Vous savez que l'exposition n'a pas coûté un centime à la ville de Paris, ni aux contribuables. Je pourrais faire une donation. Je vais réfléchir encore un peu parce que, ouais, enfin, on sait bien l'histoire de Koons. Il offre un bouquet de tulipes, même pas un bouquet de tulipes à la mer. Il offre l'idée d'un bouquet de tulipes et puis il fait payer ça par le contribuable. Je trouve que c'est un peu limite. Ici, je voulais que le projet soit entièrement offert, soit accessible à tous, soit gratuit forcément. En extérieur, c'est l'idéal. Je vais réfléchir. Il faut d'abord que je remplisse ma cagnotte avant de commencer à faire des cadeaux à tout le monde.
Mais dites-moi, le chat a connu tous les honneurs. Il a été exposé en galerie sur des toiles de 3 mètres sur 2. Pour ses 20 ans, il y a eu une grande exposition aux Beaux-Arts de Paris. La scénographie était déjà gigantesque. Il y avait eu 350 000 visiteurs. Il y a eu ensuite l'art et le chat au musée en herbe où il s'introduisait dans des toiles de Van Gogh ou d'Andy Warhol. Maintenant, ce sont ses 20 sculptures monumentales sur les Champs-Élysées. Je pense qu'il va avoir du mal à reprendre son existence modeste de héros de bande dessinée en deux dimensions, comme tout le monde, quoi.
Mais pas du tout.
Non.
Vous savez, il est un peu comme Superman. Quand il s'agit d'accomplir des projets gigantesques comme ceux dont vous me parlez, eh ben il met ses collants bleus et son slip par-dessus le collant, paf, il saute par la fenêtre et il y va, il sauve le monde. J'ai peut-être d'ailleurs inventé un vaccin, moi, cette semaine. C'est le vaccin contre l'amorosité. On va voir si ça fonctionne. Et puis, Superman, quand il a terminé sa mission, il redevient l'employé modeste qu'il était et il redevient un type normal. Et moi, c'est vrai que je pourrais me dire, tiens, mon pote, tu te rends compte de ce qui s'est passé? Bon, après, je vais rentrer chez moi et la vie continue.
Mais vous allez retourner ensuite dans des foires, dédicacer des dessins pour les enfants? Vous n'allez pas leur demander de les payer, les dessins, pour votre cagnotte?
Je pourrais demander aux enfants de casser leur tirelire pour financer le musée, ça serait bien. Mais vous savez, ça, vous ne savez pas. Vous posez tout de même des questions. Vous êtes quelqu'un de tiens. Hein. Et puis, vous disiez, je vous en parle depuis 3 ans. En fait, je vous en ai parlé trois fois en 3 ans. D'abord pour dire que c'était un projet, ensuite quand on s'est baladé sur les champs pour vous dire où ça se passerait, et aujourd'hui pour vous dire que l'exposition est inaugurée. Vous croyez pas si bien dire, avec les enfants, j'avais un jour, dans une galerie à Lyon, fait des petites toiles de petits formats que j'avais accrochées en dessous des grandes toiles. Et je les avais mises en vente à 10 euros pièce, mais que pour les enfants, et à condition qu'ils l'achètent avec leurs sous.
Quelle horreur.
Et attendez, les enfants étaient emballés. Il y a une petite fille, j'avais dit c'est réservé, il faut avoir 10 ans maximum. Et il y a une petite fille, je vois en larmes, et je demande à sa mère, mais pourquoi? Elle dit, elle adore cette toile, elle voudrait l'acheter, mais elle a 11 ans. Alors j'ai corrigé l'écriteau et j'ai dit 12 ans maximum.
Et si elle n'avait eu que 9 euros, l'auriez-vous vendu quand même?
J'aurais fait une remise.
C'est bien gentil. Je rappelle que ça s'intitule Le chat déambule, pour tous ceux qui n'auront pas la chance d'être là où se trouvent les statues monumentales. Le chat déambule, c'est le catalogue album de Philippe Geluck qui nous raconte cette exposition assez exceptionnelle, il faut le dire. Ça vient de paraître chez Casterman. Merci Philippe Geluck.
Merci.
Promettez-moi, on n'en parle plus jamais de cette
exposition.
On n'en
parle plus jamais, mais je vous promets ça. Après vous avoir dit qu'il existe aussi une appli qui s'appelle Le chat déambule, qui est gratuite et qui est un vrai audio guide complémentaire du catalogue. Maintenant, je ne vous parlerai plus jamais de cette exposition, je vous le promets.
Merci Philippe, à bientôt.
Europe 1.
On se retrouve demain matin à 9h. Après le flash, vous avez rendez-vous avec Sébastien Guyot et les grandes voix d'Europe 1. Quel est le programme, Sébastien?
Xavier Bertrand, candidat envers et contre LR. Palmea culpa d'Emmanuel Macron. Combien de temps peut-il tenir? Et puis nous reviendrons sur la subvention polémique de la mosquée de Strasbourg.
Merci Sébastien, bonne émission.